I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达家。
Hollywood star Vic Capron की लोडशेडिंग की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international quotidien que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Clémence Alézard, mais aussi Tiffaine de Roquigny, Xavier Martinet, réalisée ce matin par Perret Legras et mise en onde par Jean-Guilain Meige. Nouvelle semaine, nouvelle série qu'on va consacrer au transport maritime qui tient la mer, tient le commerce du monde, qui tient le commerce, tient la richesse, qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même, disait l'explorateur et navigateur anglais Walter Raleigh, mort en 1618, dans son Histoire du monde, son récit inachevé de ses voyages. Et bien justement, bon, pour entamer cette semaine autour du transport maritime, cette grande traversée, on a choisi de commencer par l'objet, le vecteur de cette mondialisation, le navire cargo.
À pleine charge, le navire pèse 200 000 tonnes. Vous devez être concentré au maximum. Ce n'est pas comme garer votre voiture sur un parking. Rien que pour entrer dans le port, la manœuvre dure 2h30.
C'est principalement des biens manufacturés exportés d'Asie vers l'Europe. Donc ça veut dire du matériel ici, des biens de grande consommation, des vêtements, des bicyclettes par exemple, et aussi des biens industriels pour la production en Europe.
Ça a été chargé dans quel port ?
Un peu partout, à Shanghai, dans les différents ports chinois, mais aussi en Malaisie. Alors nous sommes dans une cale, là, à l'intérieur de la coque du navire. C'est vraiment gigantesque. On peut charger 11 hauteurs de conteneurs, comme vous pouvez le voir, donc l'équivalent de 11 étages.
C'est des réfrigérés ?
Ce sont des reefers, ouais. Ce sont des conteneurs réfrigérés. Ça va jusqu'à moins 20 degrés. Ah, ça peut aller de la pomme de terre à la banane, des fruits, des fruits de mer, un truc comme ça.
Le transport maritime, voilà notre sujet cette semaine. Transport maritime qui assure près de 90% des échanges mondiaux et les gigantesques navires constituent bien sûr les vecteurs incontournables de cette mondialisation qu'on va scruter à la loupe cette semaine. Le secteur maritime est l'un des reflets, un formidable thermomètre des fluctuations économiques, reflet de la mondialisation, reflet aussi des déséquilibres territoriaux et économiques que ce système engendre. De plus en plus de marchandises sont mises en boîte, transportées dans des conteneurs. Le conteneur, voilà peut-être la grande révolution du transport maritime ces dernières années. Cette idée de génie qui révolutionna le commerce maritime, on la doit à Malcolm McLean, ancien routier devenu entrepreneur, qui en 1956 fut le premier à imaginer des remorques de camions détachables, donc directement transférables sur les navires. Il est assez méconnu, Malcolm McLean, mais c'est un homme qui a changé finalement la face du monde, comme le reconnaissait le célèbre magazine Forbes. On parlera bien sûr ce matin de la conteneurisation du transport maritime, et puis plus globalement on se demandera au fond qui maîtrise ce transport maritime, quels sont les territoires favorisés par ce commerce, quelles sont les routes aussi qu'empruntent chaque jour ces milliards de tonnes de marchandises. Pour le comprendre, cap sur l'Asie bien sûr, comment s'est opéré le basculement asiatique du commerce maritime mondial, l'Asie orientale et la zone pacifique polarisant désormais plus de 2/3 des activités portuaires planétaires. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas Sartini, directeur exécutif de la ligne Asie-Europe du groupe CMA-CGM, premier armateur français, numéro 3 mondial du transport maritime conteneurisé. CMA-CGM qui est d'ailleurs l'un des premiers groupes à être parti à la conquête de la Chine. On en parlera tout à l'heure avec Nicolas Sartini. On se dirigera aussi du côté du littoral africain avec le géographe Léandre Edgar Djambou, où, symbole là aussi d'une Afrique de plus en plus mondialisée, les interfaces portuaires se développent, les armateurs s'intéressent de plus en plus à ces marchés. Alors est-ce qu'on est en train d'assister à un déplacement du centre névralgique des échanges internationaux de l'Asie vers l'Afrique ? C'est ce qu'on verra avec lui, mais d'abord pour l'heure, quel impact a eu cette conteneurisation de l'économie sur les échanges, sur la circulation des marchandises ? Comment le monde a-t-il mis en boîte ? C'est votre expression, Antoine Frémont, ce monde mis en boîte. Bonjour Antoine Frémont.
Bonjour.
Vous êtes géographe, votre expression, parce que vous avez écrit un livre justement sur ce sujet, Le monde en boîte, conteneurisation et mondialisation, qui était paru aux presses de l'INRETS, où vous avez été directeur de recherche, hein, l'Institut National de Recherche sur les Transports et la Sécurité. Alors aujourd'hui, c'est un nom différent, mais peu importe. En tout cas, vous êtes géographe, Antoine Frémont. Vous allez nous accompagner pour cette première émission de cette série sur le transport maritime. Vous êtes beaucoup intéressé à cette question de la conteneurisation. Vous dites que c'est l'épine dorsale de la mondialisation, ce conteneur. Ça signifie qu'en gros, la globalisation des échanges, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans ce conteneur. Et que de fait, il y a donc une corrélation extrêmement forte entre le niveau des échanges et au fond, tout simplement, le nombre de conteneurs qui naviguent sur les mers du monde.
Exactement. Il y a une corrélation étroite entre la mondialisation et le transport maritime conteneurisé. Alors, peut-être pour replacer un petit peu le conteneur dans le transport maritime, il ne faut pas oublier que dans le transport maritime, on a aussi tous les transports de vrac. Donc, par exemple, le vrac, c'est tout ce qu'on met à même la cale d'un navire. Donc, par exemple, le pétrole, ça, c'est les vracs liquides. Et puis, il y a aussi le transport des vracs secs, les charbons, les minerais, les céréales.
Le sucre, etc.
Exactement. Ça, ce sont d'autres navires, les navires vraqués, donc les pétroliers ou les vraqués pour donc les vracs secs. Et ça, typiquement, c'est le navire des Trente Glorieuses associé aux industries lourdes, associé dans les ports aux zones industrielles portuaire et à l'industrie sur l'eau. Et puis, pour tous les produits manufacturés, pour tous les biens intermédiaires, et qui sont ceux qui rentrent aujourd'hui dans nos chaînes de production ou dans les produits que nous consommons quotidiennement dans les supermarchés ou quand on va dans un magasin, eh bien aujourd'hui, le vecteur du commerce de ces produits, c'est le conteneur. Et comme vous l'avez indiqué, il a été inventé donc par un Américain. Moi, je me dis que c'est peut-être pas tout à fait le fruit du hasard, parce que c'est vraiment la suite. On est dans le Fordisme quelque part. C'est-à-dire qu'il conçoit quelque chose d'extrêmement simple, une boîte qui est totalement standardisée, qui va amener
qui fait 20 pieds de long.
Alors, 20 pieds ou 40 pieds, il y en a de deux grands types. Dans le reportage, on a entendu aussi qu'il y avait des boîtes reefer, c'est-à-dire des boîtes qui sont réfrigérées, donc qui vont permettre de transporter des produits périssables, et notamment des produits alimentaires. Et donc, on a un outil qui est complètement standardisé, qu'on va pouvoir empiler sur des navires porte-conteneurs. Et en même temps, dans ces boîtes, on peut mettre absolument pratiquement tout ce qu'on veut. Et c'est ça la force absolue de ce système, puisque là aussi, comme ça a été dit dans la petite introduction, on va pouvoir y trouver des chemises, du matériel hi-fi, mais pourquoi pas aussi des vieux papiers, des vieux ordinateurs.
Et on peut tellement y mettre ce qu'on veut que de plus en plus, vous parliez des vraquiers à l'instant, c'est-à-dire en gros ce qu'on peut mettre en vrac, et notamment ce qui est sec, c'est-à-dire les céréales, le sucre, etc. etc. Ces choses-là, de plus en plus, on les conteneurise également. Alors, là, il y a un phénomène aussi qui est intéressant. Alors, il faut comprendre pourquoi, au fond. Est-ce que c'est parce que c'est moins cher ou parce que ça permet d'avoir aussi accès à une logistique particulière, spécifique?
Alors, il y a des grands phénomènes derrière. La taille des navires n'a cessé d'augmenter. Et donc, la taille des porte-conteneurs n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, les plus gros navires peuvent transporter jusqu'à 18 000 boîtes. Donc, ce sont des navires absolument gigantesques de plus de 400 mètres de long.
Quand vous dites une boîte, c'est un EVP. Un équivalent 20 pieds.
Un équivalent 20 pieds. Et donc, on mesure la capacité d'un navire porte-conteneur au nombre de boîtes équivalent 20 pieds qu'il est capable de transporter. Donc on dit par exemple un porte-conteneur 6000 EVP ou 15000 EVP. Les plus gros font 18000 EVP.
Je vais vous dire, le plus gros, il fait 19100 EVP. Alors, il vient d'être mis à l'eau, c'était là au mois de décembre, c'est le CSCL Globe. 400 mètres de long, 19100 EVP.
J'étais déjà dépassé, hein. Voilà, parce qu'il y a une course.
Comment expliquer justement qu'on soit comme ça dans cette course au gros conteneur? Pourquoi est-ce qu'on va vers des capacités de transport de plus en plus importantes? Et est-ce qu'il n'y a pas une limite?
Alors, cette course, elle s'explique parce que c'est l'économie d'échelle. Le grand principe économique qu'il y a derrière, c'est l'économie d'échelle. Plus vous transportez de boîtes avec un seul et même véhicule, moins le coût à la boîte transportée est important. Et donc, moins le coût aussi à la marchandise transportée, la chenille que vous allez acheter ou la chemise que vous allez acheter qui a été fabriquée je ne sais où, ou si en Asie, plus le coût du transport dans l'unité de la marchandise que vous allez acheter, il est faible.
Oui, mais on peut pas non plus avoir des navires de 800 mètres avec 40 000 EVP, parce que derrière, il faut quand même les accueillir, ces navires. Il faut des infrastructures portuaires en capacité d'accueillir ces navires, de faire des transbordements, etc. Il n'y a pas une limite à un moment ?
Alors, on peut se poser la question de la limite. Pour l'instant, cette question de la limite, elle se pose depuis les années 80, depuis que la conteneurisation a pris une ampleur sans précédent. Et il y a toujours eu cette question, est-ce que les ports pourront ou est-ce que techniquement on pourra ? Et de fait, jusqu'à présent, cette course a été ininterrompue. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les ports sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, s'ils ne s'adaptent pas au gigantisme de ces navires, quelque part, ils se mettent en dehors de la course pour les réceptionner.
Donc il faut absolument modifier ces infrastructures. C'est par exemple ce qu'a fait Rotterdam, Maasvlakte 2, qui est donc une extension du port de Rotterdam, qui a été décidée il y a une dizaine d'années maintenant, en 2004, qui a été inaugurée l'année dernière. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que pour rester compétitif, on augmente ses capacités. C'est exactement ce qu'a fait Rotterdam pour ne pas perdre sa place.
Exactement. Donc le Rotterdam, Maasvlakte 2, c'est dans c'est une espèce de continuité historique tout au long du XXe siècle où le port finalement est parti, était près de la ville. Et puis au fur et à mesure que la taille des navires augmente, le port glisse doucement vers la mer. Et là, Maasvlakte 2, c'est une emprise portuaire qui a été construite sur la mer. Et effectivement, pour accueillir ces plus gros navires. Donc non seulement il faut du tirant d'eau, c'est-à-dire qu'un navire, il y a ce qu'il y a au-dessus, mais il y a ce qu'il y a aussi sous la ligne de flottaison. Et comme ces navires sont de plus en plus gros, il faut des tirants d'eau de plus en plus importants, 16-18 mètres sous l'eau.
Donc il faut aller racler le fond, ce qui ne plaît pas beaucoup aux écologistes.
Exactement, ça crée des problèmes environnementaux. Donc il y a une dimension environnementale qui est très importante. Et puis évidemment, il faut des quais pour accueillir ces navires. Vous imaginez 400 mètres de long, donc il faut des navires de plusieurs kilomètres de long, et puis aussi des quais en profondeur, parce que il faut ces boîtes que vous chargez ou que vous déchargez, il faut bien les stocker en attente de ce qu'on appelle le pré- et post-acheminement. C'est-à-dire que ces boîtes, elles ont une destination finale, elles vont aller dans un entrepôt, elles vont aller dans une usine, elles vont peut-être aller même directement dans un supermarché, et donc là, il y a toute la logistique terrestre. Et effectivement, ce que permet le conteneur, c'est une logistique de bout en bout. Donc de la porte du producteur, presque jusqu'à la porte du consommateur, ou en tout cas, on va dire, la porte des entrepôts, et de faire une logistique en juste à temps. Pratiquement à une échelle internationale. Donc ça, c'est fondamental aussi.
Ce qu'on remarque à travers tout ça, c'est que finalement, les flux maritimes, le trafic maritime, il a du coup, de fait, eu tendance à se densifier, à se concentrer. C'est-à-dire que les gros ports accueillant de plus en plus de navires, des navires qui plus est, transportent de plus en plus de boîtes, ça veut bien dire que le flux s'est concentré et que du coup, peut-être que certains ports, petits ports, ont fait les frais de tout ça, de ces évolutions. Il faut être un gros pour aujourd'hui s'imposer.
Derrière, il y a une logique de transporteurs, des transporteurs maritimes, donc les armements, qui exploitent ces navires. Parce que plus vous avez des navires importants, plus se pose la question de remplir ces navires. Et donc, c'est ce qu'on appelle la massification du transport maritime. Et donc, la nécessité d'aligner ces très gros navires qui suivent des itinéraires très réguliers, de les aligner sur les routes les plus importantes. Et donc, d'avoir ces grands ports, ces très grands ports qui servent de hub, c'est-à-dire de nœuds dans le réseau, à partir donc des nœuds, comme un nœud aérien, comme un hub aéroportuaire quand vous êtes passager, qui vont permettre finalement de grouper ou d'éclater les trafics. Et effectivement, les plus grands ports à l'échelle mondiale, ils jouent non seulement un rôle pour desservir leur hinterland, leur arrière-pays, mais aussi pour redistribuer la marchandise vers d'autres destinations géographiques océaniques. Donc Rotterdam est un hub, mais aussi Le Havre, Anvers, qui sont aussi des hubs si on prend par exemple la façade maritime nord-européenne.
Toute dernière question avant de vous proposer une petite surprise à vous, Antoine Frémont, et aussi à nos auditeurs ici à France Culture. Restez bien à l'écoute parce qu'on va vous proposer, on vous le dit dans un instant, on va être en liaison avec un navire qui est quelque part vers le golfe d'Aden, entre l'Asie et le Moyen-Orient. Grâce à une liaison satellite, on va pouvoir lui parler dans quelques instants. Mais vous parliez de hub portuaire. C'est quoi un bon hub et qu'est-ce qui fait un bon hub? C'est seulement des considérations géographiques ou c'est autre chose?
On a deux grands types de hubs. Par exemple, les hubs méditerranéens sont des purs hubs, c'est-à-dire typiquement le navire, là, le commandant de bord que vous allez avoir en ligne, il va sans doute traverser le canal de Suez, se retrouver en Méditerranée, et là vous avez des ports qui sont sur la route du navire. Marzax Lock, je pense qu'il va s'y arrêter à Malte, où il va y avoir des conteneurs qui vont être échangés, c'est-à-dire qui vont être déposés sur le terminal. Et puis, par exemple, il va y avoir des conteneurs qui vont partir pour le Maghreb, des conteneurs qui vont partir pour l'Italie, des conteneurs même qui vont peut-être partir pour la côte Ouest-Afrique ou pour la côte Est-Amérique du Nord, avant que notre navire ne continue vers l'Europe du Nord. Donc, c'est un véritable puzzle. Qui est fait et qui permet finalement des combinaisons d'origine-destination absolument extraordinaires, tout en concentrant, massifiant les trafics et donc en faisant les économies d'échelle dont on a parlé au début.
Cas pratique, on va voir justement comment ça se passe sur le terrain. On retrouve, grâce à une liaison satellite, normalement Gilles Saint-Jolme, qui est commandant de bord sur le CMA-CGM Jules Verne. Vous vous rendez compte, hein, ça ne s'invente pas, qui fait route vers le golfe d'Aden. Bonjour Gilles Saint-Jolme, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, je vous entends très bien. Bonjour, messieurs.
Merci beaucoup d'être avec nous, hein, Gilles Saint-Jalme. Donc, je le disais, vous êtes quelque part entre l'Asie et le Moyen-Orient. Vous nous dites un peu où est-ce que vous êtes, d'où vous venez et où vous allez, Gilles Saint-Jalme ?
Tout à fait. Alors, nous revenons d'un voyage. Nous avons rempli le bateau de containers en Chine. C'est CGM Jules Verne, qui est un navire de 400 mètres de long et qui fait 16 000, l'équivalent 20 pieds. Je vous entendais parler avant des tailles des navires, donc celui-ci c'est un 16 000 équivalent 20 pieds.
Ah oui, donc c'est un très gros navire pour le coup, ça.
C'est un très gros navire, il fait 400 mètres de long, 54 mètres de large.
Et où est-ce que vous allez là, Gilles Saint-Jalme ?
Nous sommes partis de Port Kelang en début de mois là, et nous traversons actuellement l'océan Indien. Nous approchons de l'île de Socotra, qui se trouve à environ 300 000 de la Somalie. Et nous allons demain engainer dans le golfe d'Aden, puis ensuite la mer Rouge, et nous arriverons sur le canal de Suez. Nous irons au mouillage le 20 décembre en soirée, pour transiter le 21 dans un convoi.
C'est un voyage qui dure combien de temps, tout ça ?
Alors, la rotation totale d'un départ Le Havre, retour Le Havre, fait 11 semaines, 77 jours.
11 semaines. Vous savez ce que vous transportez, là, actuellement, sur votre navire ? Est-ce que c'est que du conteneur ? Oui.
Ah oui, ce navire ne porte que du conteneur. Nous avons toutefois des possibilités de faire des plateformes de conteneurs flat, c'est-à-dire des conteneurs uniquement en partie basse avec un plancher, de former une plateforme et d'emporter des grosses pièces de métallurgie ou de motorisation pour des usines. Mmh. Nous avons actuellement des turbines à bord que nous allons décharger à Southampton.
D'accord. Gilles Saint-Jalme, dites-moi, vous me disiez, vous êtes du côté du golfe d'Aden, c'est pas réputé comme étant une zone parfaitement tranquille. En tout cas, on dit que c'est un des grands pôles de la piraterie mondiale. Il y a des mesures particulières que vous prenez, Gilles Saint-Jalme, lorsque vous arrivez, vous pénétrez dans ces eaux ?
Oui, nous prenons des mesures particulières, mais le piratage de ce côté-ci du globe a bien diminué hein, suite à l'intervention des divers États mondiaux qui ont fomenté une coalition contre les pirates. Et franchement, aujourd'hui, le nombre des attaques a beaucoup, beaucoup régressé. Et tout ça se répercute plutôt dans le golfe du Bénin ou du côté du sorti du détroit de Malacca. Mmh.
On parlera de toute façon, bien sûr, de la piraterie cette semaine. Mais toute dernière question, Gilles Saint-Jalme. Votre équipage aujourd'hui, vous êtes combien sur ce CMA-CGM Jules Verne et toute nationalité confondue ou est-ce qu'il y a seulement des Français, Gilles Saint-Jalme ?
Alors aujourd'hui, à bord, nous sommes 29 personnes et nous sommes deux nationalités, des Philippins, principalement pour l'équipage et quelques officiers, et le restant des officiers est en français.
Mmh. Antoine Frémont, vous voulez profiter qu'on a en direct un commandant de bord en pleine mer, Gilles Saint-Jalme ?
Écoutez, je parlais tout à l'heure de Marzax Lock et de donc quand est-ce que vous allez y arriver ? Expliquez-nous un petit peu combien de temps dure une escale. Par exemple, quand vous allez faire cette escale, j'imagine à Malte.
Gilles Saint-Jalm ?
Oui, alors Malte, on l'a fait au voyage aller. Notre éclatement sur Malte se fait à l'aller. Au retour, notre méditerranéen, c'est le port de Tangemet. C'est un port tout récent, port spécifiquement pour les containers. Et l'escale dure environ 24 heures. La moyenne des escales, surtout de la ligne, dure moyennement 24 heures. Même dans les gros ports de chargement chinois, vu la taille du navire, il nous déploie un maximum de grues, de portiques à containers. En fait, on peut travailler jusqu'à 10, 11 portiques et on dépasse rarement les 24 heures d'escale.
Merci beaucoup, Gilles Saint-Jalm, d'avoir été avec nous en direct. Et puis, peut-être pour faire plaisir à notre réalisateur aujourd'hui, Perret Legraff, vous nous mettez un petit coup de corne de brume, là, pour être sûr que vous êtes bien en mer, qu'on ne raconte pas n'importe quoi aux auditeurs. C'est possible ? Vous allez déranger personne.
Je vais déranger personne. Par contre, je ne suis pas à la passerelle. Je vais essayer de joindre la personne qui se trouve là-haut. On va essayer.
On essaye ?
Vous me donnez un petit instant.
Alors, on va essayer. Hein,
quelque chose qui est très important qui a été dit, ouais. C'est, je ne sais pas si vous avez entendu, le fait de mettre 11 portiques à conteneur pour décharger le navire. Et donc, c'est la productivité de la manutention. Vous vous rendez compte, 24 heures.
Excusez-moi de vous déranger, on va peut-être entendre la corne de brume.
Allez-y, on écoute.
Je l'entends moi, mais je pense pas.
On
ne sur l'arrière. Oui.
Bon, on ne l'entend pas, mais ce n'est pas grave. On vous croit sur parole. Un grand merci. Et puis, bonne suite, bon voyage. Hein.
Merci à vous également. Merci de l'intérêt que vous portez à notre beau métier. Là-bas.
À vous et aux Jules Verne. Très bonne route. On va rester justement sur cette voie Europe-Asie. On va poursuivre nos conversations dans un instant avec Nicolas Sartini. La ligne Europe-Asie, c'est celle qui nous intéresse.
Aujourd'hui, dans le shipping, tout est prévu d'avance. Les décisions sont prises du siège d'Australie, ici, dans notre cas de figure. Et donc, on est aux ordres et on attend les décisions.
Donc, je reste au mouillage encore, c'est correct? Qu'est-ce qu'il dit? S'il vous plaît, répétez, je ne comprends pas ce que vous dites. Ok, merci.
Tout est ok à l'avant ?
Oui, tout est ok.
Un remorqueur, c'est ok ?
Tout va bien.
Il me semble que le voyage dernier, il n'y avait rien de l'autre côté. Les portiques sont arrivés en 42 jours.
Du fait de l'expansion rapide de l'économie chinoise, il y a plein de très gros bateaux qui viennent à Ningbo tous les jours.
Vous pensez que ça va être comme ça pendant de longues années ?
Oh oui, comme les relations avec la France, avec les États-Unis et d'autres pays s'améliorent de jour en jour, tout ça est très bénéfique pour la Chine.
Shanghai, Ningbo, deux des plus grandes zones portuaires de Chine. Shanghai qui est même devenu le plus grand port du monde en termes de tonnage, qui a dépassé Singapour dans la deuxième partie des années 2000. Shanghai, le symbole de l'explosion de ces ports chinois qui, depuis quelques années, assurent l'essentiel du commerce maritime mondial. On va retrouver Nicolas Sartini, directeur central exécutif de la ligne Asie-Europe à CMA-CGM. Bonjour Nicolas Sartini.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez vu, vous êtes rassuré, tout va bien du côté du Jules Verne. Hein. Gilles Saint-Jalm nous disait qu'il fait bonne route, tout se passe très bien. Mais j'imagine qu'évidemment vous surveillez ça heure par heure, hein, Nicolas Sartini.
Oui, c'est vrai. Nous avons à peu près 443 navires exactement qui sont actuellement en route quelque part dans le monde. Et ils sont suivis tous les jours, heure par heure, par un centre opérationnel qui est unique en son genre et qui est basé à Marseille, au siège de la compagnie CMA-CGM.
On va s'intéresser à cette ligne Europe-Asie. Alors d'abord, en quelques mots, CMA-CGM, premier armateur français, numéro 3 mondial du transport maritime conteneurisé. C'est un groupe qui est né d'une fusion en 1999 entre, d'un côté, la compagnie Générale Maritime, qui est une compagnie qui est fondée depuis 150 ans, 1850, dans les années 1850, renommée plus tard la compagnie Générale Transatlantique. Au départ, elle assure le transport de courrier vers l'Amérique. Et puis plus tard, c'est cette fameuse French Line qui fait ce transport de passagers avec des navires aussi célèbres que le Normandie ou le France. Et puis de l'autre côté, on a la compagnie maritime d'affrètement, créée en 1978 par Jacques Saadé, qui est l'actuel président de la CMA-CGM. Voilà pour les présentations. CMA-CGM qui s'est lancée depuis un moment maintenant à la conquête de la Chine, puisque la première ligne Europe-Asie, qui part donc du Havre et qui rallie la Chine, a été inaugurée en 1986. À l'époque, la Chine n'était pas le poids économique, le monstre économique d'aujourd'hui. Pourquoi avoir ouvert cette ligne aussi vite, j'allais dire ? Est-ce qu'il apparaissait de manière évidente pour vous, CMA-CGM, que le grand pôle d'avenir de l'activité, c'était cette Europe, cette Asie, et donc il fallait absolument ouvrir cette ligne Europe-Asie, Nicolas Sartini ? C'était déjà clair à l'époque ?
Oui, absolument. Les trafics étaient déjà les plus importants entre l'Europe et l'Asie. D'ailleurs, de façon assez intéressante, à l'époque, le trajet dominant, c'était bien sûr le trajet entre l'Europe et l'Asie, l'Europe exportée vers l'Asie. Et les choses se sont retournées assez rapidement. Nous avons très vite fait le pari à la CMA, puis CMA-CGM, d'investir en Chine. Et nous avons démarré nos premières escales en Chine dès 1992 avec un premier port. À l'époque, c'était Ningbo, suivi de quelques années après de Shanghai. Et maintenant, nous escalons dans 14 ports chinois. Le Jules Verne, dont on vient d'entendre le commandant Saint-Jalme, a escalé, par exemple, lors de son voyage à Ningbo, Shanghai, Xiamen, Yantian, Hong Kong. Donc, la pénétration du marché chinois a été certainement un des gages de succès de CMA-CGM.
Vous avez bien fait, puisqu'apparemment, le pari est gagnant, puisque je crois que la ligne représente 35% en volume de votre activité, je ne me trompe pas ?
Les volumes entre l'Asie et l'Europe représentent en effet 35% de l'activité du groupe, mais je crois que ce qui est important de dire, et je crois que vous parlerez tout à l'heure de l'Afrique, c'est que le groupe CMA-CGM est maintenant un groupe globalisé qui est capable de desservir les 400 ports principaux du monde, et cela sur les cinq continents.
Ouais, toujours dans l'anticipation, et c'est évidemment probablement cette anticipation qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un acteur central, Nicolas Sartini.
Oui, nous sommes réputés donc le troisième groupe mondial, et c'est un groupe qui est réputé pour sa réactivité, pour son adaptation rapide. Et je dois dire que le fait d'être aujourd'hui un groupe globalisé nous permet à tout moment d'être, disons, branché sur le monde et d'être à l'affût des zones de croissance.
Vous restez avec nous, hein, Nicolas Sartini. Antoine Frémont, quand on regarde le classement des armateurs aujourd'hui, on voit, alors évidemment, notre groupe français troisième, on voit un Danois qui est en première place, qui est Marx, on voit aussi une compagnie italienne qui est basée à Genève, qui est MSC, on voit évidemment des entreprises chinoises, Cosco, CSCL. Il y a une chose qui m'étonne dans ce classement, c'est qu'il n'y a pas d'acteurs américains. S'il y en a une, il y a APL, qui est une ancienne compagnie américaine, dont le siège est basé maintenant à Singapour, mais il n'y a pas de gros acteurs américains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire parce que quand même les États-Unis, première économie du monde, même si on a entendu la semaine dernière que selon certains critères, peut-être que la Chine serait passée devant, etc. Quand même, les États-Unis, premier acteur économique du monde, et pourtant, on ne les voit pas dans le classement des armateurs. Ça veut dire qu'on peut être premier et pas avoir de représentants dans cette activité-là, qui est pourtant si cruciale. Mmh. On a dit 90% en gros des échanges aujourd'hui se passent sur la mer, et pas d'Américains.
C'est effectivement une question intéressante et troublante. Donc les Américains avaient deux grands armateurs, Sealand et puis EPL, jusque dans les années 90, et puis qui ont été vendus à des groupes étrangers. Et donc maintenant, le marché du transport maritime, c'est entre des armateurs européens et des armateurs asiatiques. Chaque pays asiatique, nouveau pays industriel d'Asie ou Chine, ayant un ou deux armateurs à sa disposition pour le commerce extérieur. Mais effectivement, les États-Unis se sont désintéressés en quelque sorte, en tout cas sont plus présents sur ce marché. Ils sont par exemple présents sur le marché de la croisière. C'est eux qui ont un marché complètement différent. Mais sur le marché du conteneur, ils sont absents.
Ils sont absents. C'est assez étonnant, Nicolas Sartini, que les États-Unis soient aussi absents de ce secteur-là.
Ah ouais, je reprendrai la formule d'Antoine Frémont, qui est assez juste. Hein. C'est à la fois intéressant et troublant. C'est vrai qu'il y avait deux grands armateurs que Antoine Frémont a cités, qui ont disparu, qui ont été rachetés, et qui laissent maintenant le terrain aux Européens et aux Asiatiques. Donc à nous de profiter de cette anomalie économique, et c'est ce que nous faisons en occupant le troisième rang mondial.
Et est-ce que les Européens et les Français en particulier ne vont pas devoir laisser leur place aux acteurs asiatiques? C'est la vilaine question que je voudrais vous poser maintenant, Nicolas Sartini, parce que vous avez vu, juin dernier, vous êtes concerné au premier plan, l'alliance entre trois géants européens du transport maritime, donc le Danois Maersk, qui est le premier, l'Italo-Suisse, qui est le deuxième, MSC, et puis vous, le français CMA-CGM, eh bien ce projet d'alliance est tombé à l'eau, si je puis dire, puisque le rapprochement aurait permis de constituer une flotte absolument gigantesque. Et le ministère chinois du Commerce a considéré que ça allait provoquer, je le cite, une hausse considérable de la concentration du marché et a refusé cette alliance. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette nouvelle? Est-ce que vous avez été surpris? Et dans quelle mesure ça va vous obliger à revoir un petit peu votre stratégie, Nicolas Sartini?
Bah écoutez, c'est une mesure qui date déjà du mois de juin, et je vous disais que CMA-CGM était réputé pour sa réactivité et sa flexibilité, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons réagi, nous avons trouvé déjà une nouvelle formule qui, je pense, est plus intéressante pour nous et qui donnera satisfaction aux autorités chinoises.
C'est quoi la nouvelle formule?
Alors nous avons conclu entre-temps une alliance assez intéressante sur le plan géostratégique, puisqu'elle est constituée de CMA-CGM, bien sûr, français, européen, siège à Marseille, ensuite d'une compagnie du Moyen-Orient, UASC, et d'une compagnie chinoise, China Shipping. Donc c'est une nouvelle alliance très importante, 200 navires, une vingtaine de lignes entre l'Europe, l'Asie, les États-Unis, mais aussi le Moyen-Orient et l'Inde, et qui est sans doute plus équilibrée que l'alliance initialement conçue entre les trois Européens.
Et là, évidemment, l'alliance avec un acteur chinois, China Shipping, qui est le septième mondial, a été possible parce que c'est un acteur chinois. Parce que clairement, cet empêchement, ce refus de cette alliance que vous avez essuyé, c'est évidemment du protectionnisme, tout simplement. C'était pour protéger, disons, Costco, qui est le cinquième mondial, China Shipping, dont on vient de parler, qui est le septième, c'était ça.
Disons que les Chinois, on a dû déposer sur ce projet qui s'appelait P3, on a dû déposer un dossier auprès des autorités chinoises, et les autorités chinoises ont jugé, en fonction du dossier que nous avions présenté, que l'accord P3 était présenté des difficultés pour la compétitivité sur ce marché. Écoutez, en tout cas, la page pour nous est tournée, et nous avons rebondi, et je pense bien rebondi, et cette nouvelle alliance nous donne entière satisfaction.
Je remarque quelque chose. Vous restez encore un petit peu avec nous, hein, Nicolas Sartini. Je vous garde encore quelques instants. Antoine Frémont, on remarque que une alliance n'est pas possible. On se dirige vers une autre alliance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs ne peuvent pas faire sans ce type d'alliance. On ne peut pas rester de son côté.
Alors, je crois que...
Il y a cette logique de concentration des acteurs.
Il y a cette logique de concentration. Il y a la crise qui est quand même passée par là. Mmh. Et donc, il faut bien voir que le transport maritime, il réagit au flux du commerce international. Et on a eu, en 2009, un crack très, très important dans le commerce international, qu'ont mis certains armateurs en grande difficulté. Et donc, les alliances, c'est pour les armateurs un moyen de mettre en commun leurs moyens techniques. Ils mettent pas en commun leurs moyens commerciaux. Ils restent commercialement, ils continuent de faire leur business séparément. Mais par contre...
En revanche, ils peuvent utiliser les navires des uns et des autres.
Exactement. L'intensité capitalistique de cette industrie, parce que c'est une industrie, est tellement importante que c'est la mise en commun de l'outil, finalement, de navigation qui est importante. Et donc là, c'est au gré des opportunités.
C'est la crise, Nicolas Sartini, qui vous a obligé justement à revoir votre stratégie et à imaginer des alliances?
Non, ce que dit Antoine Frémont est juste. C'est vrai que la crise a joué un rôle de concentration et de fédération des acteurs. Mais en fait, dans ce secteur maritime, les alliances existent depuis longtemps et même avant la crise. Il faut, je le disais à l'instant, pour offrir les 20 services dont nous parlons entre l'Europe, l'Asie et les États-Unis, il faut environ 200 navires. Et c'est vrai que CMA-CGM seul n'a pas les moyens de déployer les 200 navires. Et donc, il est logique, normal que nous fassions une alliance de moyens, comme il a été également indiqué par Antoine Frémont, pour pouvoir offrir à notre clientèle, puisque c'est ça que nous recherchons, c'est d'offrir à nos clients un service qui soit suffisamment fréquent, suffisamment diversifié, pour que dans un marché extrêmement concurrentiel, le client finisse par choisir CMA-CGM plutôt qu'un autre.
Mais l'autre stratégie, Nicolas Sartini, ça pourrait être tout simplement de commander de nouveaux navires.
Oui, mais là aussi, l'intensité capitalistique, je reprends les mots d'Antoine Frémont, est importante. Hein. Un navire de grande capacité, tout à l'heure on parlait du dernier navire de China Shipping de 19 100 EVP ou 19 100 boîtes, on est là dans un investissement d'environ 150 millions de dollars. Pour offrir une ligne entre l'Asie et l'Europe, vous avez besoin de déployer 10 navires, donc 10 fois 150 millions de dollars. Et en plus de ça, il faut bien sûr équiper le navire avec des conteneurs. Et donc là aussi, ce sont des investissements supplémentaires. Donc,
et sans compter que j'imagine qu'il y a un risque réel de se retrouver en surcapacité. Et en particulier quand il y a une période de crise comme celle-là, puisque des navires comme ça, ça met quand même un certain temps pour les construire. Si vous avez au milieu une crise économique, vous vous retrouvez assez vite en surcapacité. Et là, c'est la cata.
Alors, il y a ce risque de surcapacité est effectivement permanent. Il a été exacerbé en 2009. Et c'est là où, tout à l'heure, je parlais du réseau de CMA-CGM, de toutes ces lignes qui se croisent et qui desservent environ 400 ports dans le monde. Et c'est là où la puissance du réseau joue, puisque quand vous avez une région en crise, vous avez toujours la capacité de redéployer vos navires sur des zones en croissance. Il faut se rappeler que le monde est en croissance. C'est vrai qu'on a le prisme français où la croissance est limitée, mais vous avez des zones dans le monde. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure de l'Afrique.
On va en parler dans un instant, en effet.
L'Afrique, l'Asie reste en croissance. Cette année, le commerce intra-asiatique a cru d'une manière très, très rapide. Donc c'est ça, disons, la chance que nous avons d'être global, c'est de pouvoir capter comme ça les zones de croissance là où elles sont dans le monde.
Antoine Frémont, effectivement, le monde globalement est en croissance, mais le monde est en réseau et on ne peut pas faire sans ce réseau. Et Nicolas Sartini l'explique très bien. Même quand on est un gros acteur comme CMA-CGM, on doit s'appuyer sur ce réseau préexistant.
Et c'est typiquement avec CMA-CGM ou les autres. On a des armateurs qui sont globaux, qui sont des opérateurs globaux et qui sont effectivement à même de proposer à leur clientèle pratiquement toutes les destinations et donc de jouer sur la diversité. Du monde. Et donc, bien évidemment, derrière, il y a les grandes tendances lourdes de l'économie mondiale qui fait que l'Asie orientale est devenue, pour tout ce qui est produits manufacturés, une espèce de centre de production. Peut-être que demain, ça sera l'Afrique. Bon, et là-dessus viennent se plaquer les réseaux des armateurs qui ont leur propre logique pour que ça fonctionne finalement de la façon la plus efficace possible, avec cette logique de volume et de massification dont j'ai parlé.
Allez, je vous embête encore un tout petit peu, Nicolas Sartini. Est-ce que vous pensez que vous allez me dire oui, mais vous allez me dire pourquoi? Pourquoi vous auriez les moyens à terme de rester compétitif face à des acteurs chinois qui pratiquent des prix extrêmement bas, sur lesquels vous ne pouvez pas toujours vous aligner, qui parfois vous mettent des bâtons dans les roues, on le voit, comme avec cette alliance devenue rendue impossible, en tout cas refusée par le ministère chinois du commerce. Est-ce que vous pouvez rester dans ce monde-là, sans compter que eux, les Chinois, ils ne se privent pas, ils les pénètrent, les marchés européens. On pense évidemment à Costco, qui est un acteur chinois qui a obtenu, il y a 2 ans, je crois, la concession du port du Pirée en Grèce. Eux, ils gagnent des parts de marché, Nicolas Sartini.
Mais nous aussi. Je vous rassure tout de suite, nous aussi, nous gagnons des
au
parts
même rythme,
de marché.
Au même rythme.
Oui. Cette année, nous sommes, qui est une année, disons, moyenne pour l'économie mondiale, qui est encore une fois, je le disais, en croissance, mais qui reste une économie moyenne. Dans cette année moyenne, nous arrivons à gagner et à transporter 8% de conteneurs en plus. Je crois que c'est vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, la force de CMA-CGM, c'est ce que disait également, je rebondis toujours sur ce que dit Antoine Frémont, parce que ses analyses sont très justes, c'est le réseau. Nous avons constitué un réseau. Nous sommes finalement que 3 à avoir un vrai réseau global et mondial. Et ce réseau nous permet à tout moment de saisir les opportunités. Donc c'est pour ça que oui, nous allons continuer à croître. Et non, nous ne sommes pas inquiets de la concurrence des armateurs asiatiques.
Le réseau et l'anticipation. On parlait tout à l'heure de l'anticipation sur la ligne Chine-Europe. Elle est aussi présente, cette anticipation, à la conquête d'un nouveau marché, le marché africain dont on va parler maintenant, hein, vous nous le confirmez, ça fait partie de la stratégie aujourd'hui de CMA-CGM. Vous êtes déjà présent et vous allez être de plus en plus présent sur l'activité portuaire africaine, Nicolas Sartini.
Oui, oui, nous sommes en effet très présents sur ce marché. Je ne sais pas, peut-être que certains de vos auditeurs ont ce nom en tête, CMA-CGM. Vous avez parlé de CGM tout à l'heure, mais nous avons également fait l'acquisition il y a quelques années de la société Delmas-Vielleje, qui est un des grands noms du transport maritime et un grand spécialiste de l'Afrique. Et nous nous sommes appuyés sur le réseau de Delmas pour continuer à croître sur ce continent, aussi bien au départ d'Europe, qui était le marché traditionnel de Delmas, mais également maintenant de plus en plus au départ d'Asie et du Golfe arabe. Et je terminerai peut-être avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a en tête, nous, en tant que francophones, le marché plutôt de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire, certains pays anglophones, Nigeria et autres. Mais il faut également avoir en tête que des marchés de l'Afrique de l'Est sont également très porteurs, très dynamiques. Kenya, Tanzanie, les pays enclavés, Ouganda, etc., ainsi que le Mozambique. Donc, il y a...
Où les acteurs français se positionnent aussi.
Absolument, puisque ce sont des marchés en forte croissance et il faut absolument y être présent.
Antoine Frémont, toute dernière réaction. C'est vrai que c'est quand même assez rare de dire aujourd'hui, dans cette économie mondialisée, que la France va bien. Et là, c'est le cas, pour le coup. On a un acteur vraiment fort, puissant, avec une vision, une stratégie de développement. Ce n'est pas toujours le cas, il faut s'en réjouir. Là.
Non, non, mais complètement, c'est devenu un groupe de premier ordre. Et donc, c'est un atout incontestable pour l'économie française, c'est clair. Et comment être présent sur des marchés où les autres ne sont pas, ou n'y sont que marginalement, c'est clair que c'est un atout supplémentaire.
Un grand merci à vous, Nicolas Sertini, d'avoir été avec nous, directeur central exécutif de cette ligne Asie-Europe à CMA-CGM. Et puis un double merci, parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire cette ligne. Je crois qu'elle est une première, tout simplement, sur France Culture, d'avoir un navire cargo en direct, quelque part sur un océan du monde. Je crois que oui, c'est peut-être une première sur France Culture. Donc un grand merci, Nicolas Sertini. On va prendre pour l'heure la direction des ports africains.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
L'Afrique qui pèse peut-être encore peu, trop peu dans ce commerce mondial, mais dont l'économie est en train de se développer et sa façade littorale est en train aussi de se développer puisque tout ça est en plein bouleversement. Direction l'Afrique.
C'est la première fois que le port de Cotonou franchit de façon symbolique la barre des 7 millions de tonnes. Malgré ce que les gens disent, malgré qu'on dit que le port de Cotonou est délaissé, notre trafic a cru de 10%.
Nous avons trois ports qui vont se construire au nord du pays, à Tadjoura. Tout ça doit impacter l'économie de Djibouti. Vous savez que la dynamique économique régionale est également extrêmement positive. Et Djibouti est le principal point d'accès pour l'ensemble de cette région et de la Corne de l'Afrique.
Aujourd'hui, le port autonome de Lomé joue dans la cour des grands grâce aux investissements que les privés apportent. D'ailleurs, c'est ça qui explique aussi les divers projets que vous avez actuellement au niveau du port autonome de Lomé.
Pourquoi aller faire un transbordement aujourd'hui des conteneurs dans des pays lointains à des coûts exorbitants pour nos entreprises alors qu'on pourrait le faire en utilisant la voie maritime entre les États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Centre.
Et oui, ces dernières années, les ports africains sont en pleine mutation, agrandissement, conteneurisation, on s'adapte, on développe de nouveaux projets portuaires. On va aller du côté de Libreville pour retrouver Léandre Edgar Djombou. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, vous êtes à l'université de Libreville. Alors on va parler ensemble de ce développement des ports africains, parce que depuis une quinzaine d'années, je crois que ce trafic maritime augmente sur un rythme assez étonnant. Hein. Enfin, en tout cas, 7% par an, c'est assez considérable. On a par ailleurs des armateurs européens. On était là avec la CMA-CGM qui est, nous disait Nicolas Sertini, présent de plus en plus dans l'activité portuaire africaine. On a dans ce golfe de Guinée toute une série de ports historiques, mais on a aussi des nouveaux équipements, on a des nouveaux ports de transbordement qui se mettent un petit peu en place, c'est-à-dire des ports qui sont spécialisés dans l'éclatement, la distribution de flux de marchandises conteneurisés. Est-ce que vous pouvez nous dire, Léandre Edgar Djombou, d'abord, de quand date ce développement, cette explosion des ports africains et qu'est-ce qui en est à l'origine, selon vous, Léandre Edgar Djombou?
Ben, merci beaucoup, monsieur. Situer avec précision la date de cette explosion des ports serait assez délicate. Je dirais tout simplement que depuis une vingtaine d'années environ, effectivement, à la faveur d'une certaine rationalisation des dessertes, les grands groupes mondiaux ont choisi de ne plus desservir tous les ports. Nous assistons notamment à une rationalisation des ports à l'échelle de la côte ouest africaine, aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique centrale. Et je voudrais, compte tenu de cette effervescence, compte tenu de cette mutation rapide observée au niveau des ports, mettre un accent particulier sur la situation que nous vivons aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale. Comme je le disais, le choix des ports d'éclatement ou encore des hubs est d'abord une affaire de grands amateurs. On le voit aujourd'hui au niveau de l'Afrique centrale, lorsque le groupe Bolloré a choisi, ou du moins a décidé de faire de Pointe-Noire le port d'éclatement. Et là, la situation est d'autant plus intéressante que l'essentiel des fonds qui ont été consacrés ou qui sont consacrés aujourd'hui proviennent justement d'abord du groupe Bolloré, mais également avec le soutien de la Banque des États, de la Banque de développement des États d'Afrique centrale et de l'Agence française de développement. Alors, on estime à environ 570 millions d'euros, soit la bagatelle de 450 milliards de francs CFA, qui seront quand même investis pour la modernisation de cette infrastructure, de cette plateforme, pour en faire un port d'éclatement, un port de transbordement à l'échelle de la sous-région. Alors, la grande inconnue, c'est finalement ce qu'en pensent les concurrents. Parce qu'il faut le signaler, Pointe-Noire n'évolue pas en vase clos. Pour l'heure, ou du moins jusqu'à une date récente, le principal port d'Afrique centrale était quand même le port de Douala, qui assurait 95% des exportations et des importations du Cameroun, qui assurait également l'essentiel du transit des marchandises destinées ou provenant du Tchad et de la République centrafricaine. Le port de Douala, c'est 11 millions de tonnes de marchandises traitées en 2013, avec des prévisions de 13 millions de tonnes pour 2014 et 22 millions de tonnes à l'horizon 2020. Mais à côté, il y a également un certain nombre d'investissements consacrés. On a notamment ce port de Malabo, en Guinée équatoriale, le port de la capitale, qui pour l'instant traite 300 000 tonnes de marchandises par an et voit encore les navires mouillés au large. Mais là, l'État guinéen, et vous savez que c'est le nouvel Eldorado dans la sous-région, c'est l'émirat pétrolier. Donc cet État, le gouvernement de la Guinée équatoriale, a décidé d'assurer ou du moins de consacrer 180 milliards de francs CFA, soit 274 millions d'euros, à la modernisation de son infrastructure.
Ce qu'on comprend très bien, Léandre Edgard-Jambou, pardon de vous couper, c'est que finalement, tout le monde dans la région est en train d'investir et qu'un certain nombre de ports, vous le disiez, donc Pointe-Noire, Congo, Douala, Cameroun, mais aussi Cotonou, Bénin, Lomé, tout ce petit monde est en train de profiter de l'effervescence économique de la région, mais qui, à terme, pourrait finalement tirer son épingle du jeu ? Est-ce que tout le monde va en profiter ou est-ce qu'il faut s'attendre à qu'à un certain moment, certains ports, et du coup lesquels, parce que la concurrence est très rude, lesquels vont prendre le pas sur les eaux, quel port va finalement prendre le pas sur les autres ? Voilà, c'est ça que je voulais vous poser comme question, Léandre Edgard-Jambou. Voilà.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, c'est une question très intéressante parce que au-delà de la volonté des politiques, donc au-delà de la volonté des responsables des États, comme je le disais au début de mon propos, le choix d'un hub ou le choix de créer un hub est d'abord une affaire des privés et notamment des grands armateurs. Parce que ce sont eux qui desservent les ports et ce sont eux qui peuvent décider de desservir ou ne pas desservir un port. En dépit de la volonté d'un certain nombre de dirigeants politiques d'investir des sommes colossales pour la modernisation de leurs infrastructures, nous pouvons croire qu'à l'avenir, finalement, les grands armateurs ne fassent le choix contraire. Parce que ce qui se passe, par exemple, au niveau du Cameroun et du Gabon, ou même de la Guinée équatoriale, c'est que les États ont décidé de moderniser leurs infrastructures, alors que le principal armateur desservant la sous-région, en l'occurrence le groupe Bolloré, a décidé de choisir une plateforme, et en l'occurrence la plateforme de Pointe-Noire. Donc nous allons assister à une modernisation, nous allons assister à des investissements colossaux, mais la crainte c'est que finalement les armateurs ne fassent un choix contraire à celui des dirigeants politiques.
Sans compter que l'autre crainte, Léandre Edgar Djembou, c'est que tout ça ne profite pas beaucoup aux populations locales, parce que la question des retombées économiques pour l'Interland se pose aussi. Surtout en particulier quand c'est des ports de transbordement.
Pardon, vous pouvez l'entendre, je ne vous ai pas le temps.
Je dis, la question qui se pose aussi, c'est les retombées. Quelles retombées économiques pour les populations locales, pour l'Interland?
Normalement, sauf à craindre, je dis bien sauf à craindre que ces grands armateurs, ces grandes compagnies maritimes qui desserviront le port principal, n'assurent également le feedering, c'est-à-dire les dessertes intermédiaires ou les dessertes secondaires à partir du port principal vers les ports secondaires. Parce qu'il est possible également, à partir du moment où certains États ont décidé de mettre en place des petites compagnies maritimes qui ne pourront peut-être plus desservir les grands ports européens comme cela se faisait auparavant, et la situation malheureuse a d'ailleurs entraîné la ruine de ces compagnies maritimes, le réalisme voudrait que ces compagnies, ces petites compagnies, et notamment, je prendrais le cas de la compagnie nationale de navigation.
Je vous demanderai de conclure en quelques secondes, s'il vous plaît.
Oui.
Si vous pouvez conclure en quelques secondes, on est au terme de cette émission, pardon.
Je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Il est temps que nous aboutissions quand même à une certaine rationalisation des ports. Nous ne pouvons pas continuellement investir des sommes colossales dans tous les pays. Il est bon que certains États s'entendent pour essayer de spécialiser un certain nombre d'infrastructures.
Merci beaucoup, Léandre Edgar Djembou. On comprend, Antoine Frémont, qu'il va falloir rationaliser peut-être l'investissement dans ces ports africains. Il y a quelques années, on se posait aussi la question pour l'Asie, mais ça va être aussi la question pour l'Afrique. Tout le monde ne pourra pas tirer son épingle du jeu dans ce contexte-là.
Ce qu'on voit très bien, c'est que c'est considéré comme un investissement stratégique. Et si on revient sur l'Asie, ça a été considéré par les États asiatiques, cet investissement dans les ports et dans les compagnies maritimes, comme stratégique pour leur commerce extérieur. Et donc, pour l'Afrique, c'est aussi d'entrer aussi et d'être un acteur majeur dans ce secteur-là.
Merci beaucoup, Antoine Frémont, de nous avoir accompagnés pour cette première émission de cette série sur le transport maritime. On en parlera encore demain et jusqu'à jeudi. Je rappelle vos ouvrages, Le Monde en boîte, mais aussi Les Espaces maritimes, c'est apparaître à la documentation française.